Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence, Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire.
Oui, et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Bain-Roussel, une femme passionnée, curieuse et pour cause. Sa vie de chercheuse et de docteur en pharmacie et en sciences l'a amenée à vivre 1000 expériences différentes dans le domaine de la biochimie, de la chirurgie cardiaque, de la pharmacologie cardiovasculaire et j'en passe. Avec plus de 50 publications à son actif, elle finira par intégrer une société de prestations de recherche pour l'industrie pharmaceutique dont elle deviendra la présidente. Et alors que cette start-up se consacrait initialement à la recherche sur les mécanismes érectiles chez l'homme, Delphine prend conscience d'une immense différence. La santé féminine n'est que très peu adressée. Et la différence, Delphine y est d'ailleurs confrontée dans sa sphère privée, puisqu'elle est maman de 2 enfants, dont l'un a fait des choix pour le moins audacieux. Maman courage. Femme puissante, intuitive et optimiste dans l'âme, nous sommes ravis de la recevoir dans Femmes en Lumière aujourd'hui.
Bonjour Delphine.
Mais bonjour, bonjour mesdames.
Un grand merci de d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Alors d'abord un grand merci également de me recevoir. En fait, la raison pour laquelle je suis ici me définit probablement. Parce que par définition, je suis curieuse. Et je n'ai jamais enregistré d'émission radio.
Ah, donc, c'est une grande première, voilà. Un baptême.
Exactement. J'adore les challenges, ça ouais. En fait également partie. Je n'aime pas beaucoup me raconter, et donc l'expérience m'intéresse, m'interpelle. Et finalement, correspond également à ce que j'aime, c'est-à-dire transmettre. Et donc finalement, mais j'espère à la suite de cette émission que j'aurai réussi à transmettre quelques-uns des messages qui me tiennent à cœur.
Et alors, donc, en effet, la transmission, c'est quelque chose que tu as partagé depuis de longues années. Mais alors, est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens? Est-ce que tu viens d'Île-de-France? Quel parcours tu as eu?
Alors, je suis issue d'une famille de 3 sœurs. Je suis l'aînée. C'est une force d'ailleurs hein, de faire partie d'une sororité précoce, puisque mes sœurs sont également des femmes très inspirantes et qui ont vraiment bien réussi chacune dans leur domaine. Une famille relativement aisée d'Île-de-France, enfin de Paris même, qui au départ n'était pas prédestinée à des choses extraordinaires. Et puis l'été 83, mon père est rentré à la maison un soir en nous annonçant que on allait vivre une aventure familiale, une aventure d'expatriation, puisque nous avons à cette occasion déménagé dans la région new-yorkaise, dans le nord de New York, dans une banlieue très huppée, ambiance Wisteria Lane de Desperate Housewives.
Ok. Tu avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 12 ans et demi.
D'accord.
Et voilà.
Donc vous partez.
Et donc on part, femmes et enfants, dans les bagages, pour vivre cette expérience tout à fait unique, qui me marquera véritablement tout le long, parce que au-delà de d'apprendre l'anglais, d'accord, mais ce qui n'était pas complètement inutile vu que j'avais appris l'allemand en première langue, mais donc je me retrouve finalement aux États-Unis avec l'expérience de vivre ce qu'est une scolarité dans un établissement scolaire américain.
Alors voilà, c'est ça, hein, parce que tu avais le choix d'intégrer une école française ou bien américaine, et toi tu fais le choix. On te pose la question, 12 ans, 13 ans.
Oui, on me pose la question et je me dis, oh, bah tiens, allez, ça a l'air sympa. Alors, est-ce que j'ai certainement été influencée par des lectures, par des séries américaines, enfin en me disant, oh, bah, allez, hop, c'est parti. Une certaine dose d'inconscience, mais il en faut aussi dans les choix qu'on fait. Et me voilà arrivée donc dans un système scolaire extrêmement différent, avec une langue que je maîtrise pas vraiment, on va dire. Même si mes parents, avant de partir, quand même m'avaient placée dans un établissement international avec apprentissage accéléré de l'anglais. Mais enfin, bon, petit bagage fragile néanmoins.
Et là, tu vas y rester combien de temps, du coup ?
On y reste 3 ans.
D'accord.
On y reste 3 ans avec une formidable ouverture d'esprit sur ce que d'autres peuvent vivre, que la façon dont d'autres peuvent penser.
Ouais.
Et puis une soif insatiable, parce que ça, c'est vraiment ce qui définit mes parents, qui sont des gens formidables, nous ont très vite emmenés voyager, observer, regarder et
au sein des États-Unis, du coup,
admirer les façons qu'ont les gens de vivre.
Et alors, du coup, donc cet apprentissage, il va durer donc 3 ans, donc de tes 13 ans, 12 ans à 15 ans, donc vraiment un petit peu toute une bonne partie de l'adolescence. Selon toi, quel a été le plus grand apprentissage de cette expérience ?
Alors, déjà, pour arriver dans un pays différent, quel qu'il soit, c'est pas spécifique aux États-Unis, il faut faire preuve d'adaptabilité et d'ouverture d'esprit. Je pense que là, il faut laisser de côté ses certitudes. Alors, je suis pas sûre que j'en avais beaucoup à 12 ans, mais néanmoins, on est forgé quand même beaucoup par le système dans lequel on est, et notamment le système scolaire français, qui est quand même assez rigide, et c'est juste l'opposé aux États-Unis.
En fait. Alors, donne-nous un exemple.
Le système américain pousse le développement personnel avant les prouesses académiques, on va dire.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on est très très vite propulsé dans un rôle de présentation, d'exposé, de prise de parole. Exactement. Et donc l'enseignement est beaucoup moins descendant que ce qu'il peut être en France.
Et donc ça participe de la confiance en soi aussi. C'est pour ça que tu parles de développement personnel.
Exactement. Je pense que, et d'ailleurs c'est souvent ce qui caractérise, à vrai dire, les Américains quand on les voit, les rencontre, on se dit ah, quand même lui il est un peu, il la ramène un peu même. Eh bien. J'ai envie de dire, c'est normal parce qu'il a été éduqué comme ça.
Ouais, c'est une assurance, en fait.
Une véritable assurance, ouais.
Et que tu penses que tu as acquise là-bas ?
Ah ben complètement, ouais. Complètement, parce que j'ai été complètement introvertie, complètement effacée même, je pense, en tant qu'enfant et début d'adolescence. Et je pense que ça, oui, ça m'a véritablement poussée à me dire, mais après tout, j'ai aussi des trucs à dire. Voilà.
Hein. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Donc, en fait, tu pourrais qualifier ce séjour de 3 ans de voyage initiatique.
Ah, mais complètement. Ouais. Complètement. Puis, en plus, c'était une aventure familiale. Donc, ça, c'était unique. On a entre nous des souvenirs qui nous sont vraiment chers.
Bah oui, bien sûr. Et forts, j'imagine, parce que le côté extraordinaire de l'expérience.
Et qui nous a soudés.
Ouais, c'est ça.
Et tes sœurs, elles l'ont vécu de la même manière. Elles ont acquis cette assurance.
Alors, je pense que ça leur a bénéficié de la même manière. Alors, elles n'étaient pas dans le système scolaire américain parce qu'elles étaient trop jeunes, et mes parents avaient jugé à l'époque qu'il fallait d'abord consolider quand même le français et les bases, on va dire, nécessaires. D'autant que, dans leur idée, il était très clair qu'on allait rentrer en France. Ouais. L'idée n'était pas de s'expatrier à vie.
Et alors, justement... Parce que voilà, justement, c'est aussi un petit peu ce qui motive le retour en France. T'es censé, là, le bac approche. On te dit, on dit à tes parents, la Delphine, en fait, elle est quand même très très avancée. Là, elle pourrait passer son bac tout de suite et non pas l'année prochaine. Et là, ils prennent un peu peur parce qu'ils se disent, ils commencent à se projeter, à se dire, oh là là, mais si elle passe son bac ici, elle va vouloir faire ses études ici, donc elle va vouloir rester ici.
Et donc elle va faire sa vie ici. Non, c'est pas du tout comme ça qu'on l'avait vu au départ.
Bon, exactement. Donc vous rentrez en France. Alors comment ça se passe, ce retour en
France ?
Alors
personne n'est content, en fait, de rentrer en France. Et à vrai dire, moi, je n'avais pas conscience que c'était, entre guillemets, à cause de moi qu'on rentrait en France. Ah oui. Parce que ça, mes parents ne me l'avaient pas explicitement dit. Et à vrai dire, moi, j'étais hors de moi. Enfin, j'étais bien là-bas. Ah, enfin, je m'étais fait les copains, les copines. Ah,
on est dans les années combien, là ?
On est en 86. Donc, d'accord. Moi, j'avais fait 4e, 3e seconde, en fait, là-bas. Je rentrais en première.
Le lycée.
Ça commençait à devenir fun. Ouais. Et là, ce qu'on me proposait, c'était de rentrer dans un système scolaire français. Ouais. dont je connaissais la réputation, hein, si, même si je ne savais pas forcément nécessairement ce qui m'attendait, pour aller passer un bac français. J'avais, ça faisait 3 ans que j'avais pas fait de français, donc super. Inutile de dire donc qu'en pas... termes de lecture, c'était pas tellement ça.
donc pas très content, donc, mais finalement vous rentrez et puis bon bah tu te laisses finalement porter, hein, bon, par le choix de tes parents, et puis là tu vas commencer à faire des rencontres, parce que bien évidemment tu passes ton bac, on va passer tous les détails du parcours, mais il y a des stages marquants, et moi il y a une expérience dont j'aimerais que tu nous parles quand même un petit peu, qui est celle de la rencontre que tu as faite avec une professeure.
Oui,
qui a créé donc le fameux mécénat chirurgie cardiaque.
C'est une femme qui, malheureusement, est aujourd'hui décédée, mais vraiment une femme d'exception.
Tu peux rappeler son nom ?
Francine Leca. Avant d'en arriver là, effectivement, je passe mon bac. Je sais pas très bien dans quelle direction aller pour démarrer des études, mais d'ailleurs, la conseillère d'orientation que j'avais rencontrée à l'époque m'avait dit surtout éviter les études longues.
Elle était
j'ai
bien inspirée.
J'ai pas totalement suivi son conseil. Je m'inscris finalement en pharmacie parce que mon petit copain à l'époque avait décidé que ce serait une bonne idée et je me suis dit bon ouais tiens ça a l'air sympa ça.
Comprendre les médocs.
J'ai toujours trouvé intéressant d'ailleurs le milieu médical d'une manière générale, de comprendre comment les pathologies s'instauraient, comment on pouvait combattre les pathologies à la suite de médications.
Tes parents étaient dans le milieu ou pas ?
Pas du tout.
D'accord.
Absolument pas. Alors j'avais pas forcément envie de rencontrer des malades. Donc
oui, donc voilà, donc pharma ça t'allait bien. Hein.
J'évite médecine.
Pas médecine.
Mais pharma. Bon, très bien. Donc je démarre pharma et au cours des études de pharmacie, il y a un certain nombre de stages qui sont obligatoires. Pharmacie d'officine, clairement, c'était pas mon truc. J'arrive à l'hôpital. C'est un stage d'une année hôpital universitaire. Et là, j'ai l'occasion de rencontrer une femme fantastique, qui est donc le professeur Leca, qui a créé cette association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui vise à prendre en charge des pathologies lourdes cardiovasculaires qui nécessitent de la chirurgie cardiaque auprès d'enfants souvent issus du Maghreb et qui ne peuvent pas finalement avoir accès à ce type de soins. Ils viennent rapatrier les enfants en question pour les prendre en charge en France.
Et toi, tu te retrouves donc à l'assister ?
Et je me retrouve catapultée dans ce service, alors que je suis pharmacien, j'ai rien à y faire, entre guillemets. Mais elle manque de main-d'œuvre, en gros. Et elle me dit, bah écoutez, si vous voulez venir et que ça vous intéresse, pas de souci. Mais il va falloir apprendre à pratiquer des ECG, à lire les ECG, à
préparer... C'est quoi un ECG ? Production ?
Électrocardiogramme. apprendre à me préparer tous les dossiers pour que lorsque je fais mes consultations...
Là, tu te retrouves en mode Grey's Anatomy, quoi.
Absolument.
Ça, les dossiers qu'on donne...
Exactement. quand je me retrouve en consultation, j'ai besoin d'avoir les documents préparés.
Et alors, qu'est-ce qui te marque de cette expérience ? Moi, je sais que tu m'as parlé justement des enfants et de cette ambiance-là qui régnait dans ce...
La résilience de ces enfants, c'est extraordinaire. Il y avait des enfants hospitalisés entre 2 et 10 ans à peu près, des enfants qui arrivaient très très mal en point, qui repartaient en bonne santé. Donc ça, déjà, rien que ça, c'était formidable, parce que c'est malheureusement pas toujours dans tous les services hospitaliers comme ça, mais là, c'était le cas. Des enfants qui parlaient pas forcément français, qui se retrouvaient généralement complètement déracinés, sans famille. Alors, ils avaient une famille d'accueil en France, hein, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose que d'être avec ses parents. Et qui pourtant rigolaient, jouaient à longueur de journée, etc. Et donc moi, j'y passais un temps fou dans ce service. J'étais pas forcément obligée d'y passer autant de temps, puisque c'était un mi-temps. Mais en réalité, j'y passais un temps fou parce que je trouvais que ce contact avec ces enfants pleins de vie, c'était fantastique.
Et tu es resté combien de temps ?
Alors j'ai fait 6 mois là-bas.
6 mois.
Ouais, et puis
6 mois marquants.
Et puis la joie, quoi. Hein, ce que tu disais, c'est malgré le contexte, voilà, l'optimisme, la joie, et qui voilà tellement en résonance avec ce que tu es, toi, Delphine. Alors, merci beaucoup. C'est le moment de faire une première pause musicale. On se retrouve juste après. À tout de suite. I'm so happy to be here. Yeah. I'm just happy to be here. Still, I know the world's on fire. The situation's dire. A lot of work and courage is gonna be required. But I'm just happy to be here. Yeah.
Yeah. I'm sure there's many versions inside this multiverse. Where I put it in forward instead of in reverse. Or the technical skill I neglected to rehearse understandably landed me handedly in the world I hurt. It could be worse. I could be cursed to be living a life stuck on a different timeline where I never find time to discover my path and never ask the questions that I needed to ask and never sign the bottom line on my soul contract. And the multiple me's that just might be insignificant in this infinity, but still summon the chords on a string theory. The only thing that's clear to me is I'm so happy to be here. Yeah, I'm just happy to be here. Still I know the world's on fire, the situation's dire. A lot of work and courage is gonna be required, but I'm just happy to be here. My body is a time machine, traveling through time and space at 60 minutes per hour. But my mind is like a trampoline, it lets me instantly bounce between different scenes. A super strange superpower. It could get weird, I could appear like a ghost, visiting myself as a kid to let him know it's not that bad and he should learn to self-forgive. And I could go to my bedside near my death and just laugh with that old man as we enjoy my last breath. And the multiple me's that just might be insignificant in this infinity, but still summon the chords on a string theory. The only thing that's clear to me is I'm so happy to be here. Yeah, I'm just happy to be here. But on your darkest day, you can find your way when you've got a friend to help. And that's why I'm just happy that you're here. Yeah, I'm just happy that you're here. And in the world gone mad and no one understands, I know you'll always be around to lend your hand. So I'm just happy that you're here.
Yeah. IDFM 98FM.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Delphine Baird-Roussel, chercheuse et présidente de Pelvifarm, société de prestations de recherche pour l'industrie pharmaceutique, est notre femme en lumière du jour. Delphine, d'après des données récentes, on estime la part des femmes dans la recherche scientifique en France à environ 30%. Une part qui descend à 23% pour la recherche en entreprise. Toi, quelle évolution observes-tu dans ton domaine et quels efforts restent encore à faire selon toi ? 23%.
Alors pardon, je suis pas sûre de comprendre ta question.
En fait, c'est que toi, par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu as vu, par rapport à tes collègues, est-ce que tu es d'accord avec ces chiffres ? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a peu de femmes présentes dans ces univers scientifiques, sur la recherche scientifique en France ? Et toi, ton avis, voilà, qu'est-ce qui pourrait être optimisé pour avoir plus de femmes dans ce domaine-là ?
En fait, je suis pas tellement d'accord sur ces chiffres.
C'est vrai, c'est intéressant parce que c'est national, donc c'est.
Oui, j'entends bien, mais
peut-être que toi, dans ton domaine,
en tous
tu
les
le
cas,
ressens pas.
À vrai dire, c'est là où je demandais une précision parce que dans les études scientifiques, il y a une majorité de femmes.
Ok.
Et donc, je pense que cette prédominance, elle existe. après dans les domaines de recherche peut-être qu'effectivement là
il y a de grandes disparités dans les domaines
alors effectivement de recherche,
en mathématiques et physique elles disparaissent,
elles sont
il y en a plus
c'est ça,
et dans tout ce qui est chimie en
ouais, chimie, biologie, médicale, il y a
recherche scientifique
là ça remonte
exactement,
et on a voilà, et on a une baisse par contre notable sur tout ce qui est accession en fait au poste
ça c'est sans nul doute
et voilà. Voilà. Et notamment aussi pour la recherche, la recherche aussi en entreprise.
Alors oui, possiblement. Après, je pense que ça dépend effectivement beaucoup des domaines dans lesquels on s'inscrit. Et donc en biologie santé, il y a quand même pas mal de femmes.
Okay.
Et je pense qu'après, il faut considérer les différents axes thérapeutiques dans lesquels on s'inscrit.
Oui, oui, bien sûr.
Et là, pour le coup, j'ai démarré notamment, par exemple, dans un axe thérapeutique où les femmes étaient extrêmement peu présentes.
C'est ça. C'est
oui, que toi, alors, est-ce que tu peux nous rappeler ton âge ?
55 ans.
Okay.
J'hésite.
Quoi, quel âge j'ai déjà ?
Et surtout, donc 55 ans. Donc toi, tu dis que dans ton parcours et dans les entreprises dans lesquelles tu as travaillé ou les domaines de recherche, tu n'as pas ressenti en tout cas cette disparité.
Alors non, à part peut-être dans les postes de direction.
De direction, d'accord.
Là, on est d'accord que c'est quand même un domaine assez réservé encore.
Mais quand tu démarres, vous êtes peu nombreuses. C'est ça que tu nous dis aussi dans ton parcours.
Non, pas forcément.
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas qu'on est peu nombreuses, c'est que le domaine dans lequel moi je me suis spécialisée.
C'est quoi le domaine dans lequel tu t'es spécialisée ?
Parce que j'ai fait la rencontre de ces créateurs d'entreprises qui sont à l'origine de Pelvifarm, la start-up dans laquelle j'ai été embauchée juste après ma thèse. Au départ, c'est spécialisé sur les dysfonctions sexuelles et en particulier la dysfonction érectile parce que possédait un savoir-faire assez unique et d'ailleurs assez peu recherché à l'époque, qui était la dysfonction érectile, jusqu'à ce que les laboratoires Pfizer, et là j'en parle parce qu'on a largement publié avec eux, se rendent compte qu'ils avaient sur leurs étagères et en études cliniques quand même une petite pilule bleue qui n'était pas encore bien connue sous ce nom-là,
mais qui a
fait du bruit derrière.
C'est clair. Et alors, c'est étonnant quand même parce que qu'est-ce qui t'a amené à faire ta thèse? Est-ce que tu peux nous rappeler le sujet de ta thèse, par exemple? Alors, très court, hein.
Le titre. Ouais, ouais, je vais pas vous bassiner avec ça. Mais alors, moi, ma thèse, elle avait rien à voir avec la dysfonction érectile, en fait.
Ok, en plus.
Elle portait vraiment sur les maladies cardiovasculaires, l'athérosclérose et les mécanismes de développement des plaques d'athérome dans les vaisseaux.
Et alors, qu'est-ce qui t'a amené au problème d'érection?
Complètement fortuit. Je cherchais du boulot. Ouais. J'avais pas tellement envie de partir en postdoc parce que c'est pourtant la voie royale.
Postdoctorant.
Donc, c'est un peu la voie royale après une thèse de science,
bien
normalement.
Sûr.
Je n'avais pas forcément envie de partir. Ça se fait généralement aux États-Unis pour aller en plus peaufiner son anglais. J'en avais pas trop besoin.
Bah oui.
À l'époque, j'étais déjà en couple. J'avais aucune envie de partir. Enfin, bref. Je cherche un job et je tombe sur une start-up qui avait à peine quelques mois d'existence, qui s'était donc créée sur la vague de cette recherche innovante sur la dysfonction érectile et l'utilisation de
petite pilule bleue.
Composés type petite pilule bleue. Et il se trouve quand même que la dysfonction érectile a un lien extrêmement étroit avec les maladies cardiovasculaires.
Ok.
Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvée en fait dans cette thématique qui était au départ pas du tout une thématique de choix, j'avoue.
Ouais. Mais il y avait un lien.
Il y avait un lien très logique. Et il y avait aussi un challenge qui me plaisait beaucoup et j'ai toujours été un peu drivée par ça parce que il fallait tout mettre en place autour de cette thématique, les modèles expérimentaux, tout ce qu'il y avait qui serait pertinent pour aller explorer cette voie de signalisation, quoi.
Et alors, donc, tu as toujours gravité dans cet univers particulièrement masculin, finalement, autour de l'érection.
Alors, pour le coup, oui.
Voilà. Et du coup, dans votre domaine de recherche principal, ça a été donc principalement le dysfonctionnement érectile, donc les problèmes d'érection, si on veut vulgariser les choses. Comment ça s'est passé pour toi en tant que femme de t'occuper de ces sujets comme fort masculins? Comment tu as vécu les choses?
Alors, c'est peut-être c'était presque un avantage parce que c'était un peu prendre le contre-pied finalement. Je me rappelle quand même de certains congrès, colloques, etc.
Oui, c'est ça.
Où je prenais la parole
à page d'hommes
face à une congrégation d'hommes potentiellement un peu vieillissants et leur parler de leur fonction érectile. Ça avait un côté un peu marrant en fait.
C'est cocasse, ouais, c'est clair.
Et ça me permettait finalement peut-être de faire passer des messages plus facilement que ce qu'un homme aurait pu faire.
Ah, c'est vrai.
Avec plus de recul, pense, peut-être, tu penses?
Je pense. Et puis, un œil un peu nouveau, une façon d'aborder les choses de manière plus clinique et moins...
moins émotionnelle.
Oui, c'est ça.
moins subjective.
Est-ce que tu as déjà eu des remarques en disant, de toute façon, tu peux pas comprendre, t'es une femme?
Non, jamais.
C'est vrai?
Non, jamais. Okay. Non, jamais. Ça a toujours été extrêmement respectueux, même si, effectivement, peut-être que ça leur a passé par la tête.
Hein. Oui, non, mais c'est ça, tu vois.
De quoi elle parle?
La crédibilité, voilà, tu vois, ta crédibilité, en vérité. Mais c'est ça qui est intéressant, hein, quand les rôles s'inversent. Parce qu'au final, dans la recherche médicale, c'est un petit peu ce qu'on subit nous en tant que femmes, en vérité.
Hein, la majorité des chercheurs
on va en parler.
Voilà.
Et oui, la majorité des chercheurs
historiquement
étaient des hommes. La recherche se faisait sur des hommes, donc c'est vrai que
t'es en train de changer.
Tu as pris, mais
oui, voilà. Oui. Mais d'ailleurs, grâce à des personnes comme toi, puisque Delphine, donc tu finis par prendre. Alors Pelvifarm, juste pour préciser, donc tu y es depuis 25 ans.
Près 26 maintenant.
Presque 26, comme le temps passe. Bon, t'as grandi dans cette entreprise jusqu'à en prendre la tête il y a 10 ans maintenant. Hein, ça fait 10 ans que tu es à la tête de cette entreprise. Et à quel moment est-ce que tu te dis, tiens, on va donner une orientation plus axée santé féminine justement? C'est toi qui initie ce mouvement.
Oui. J'ai eu beaucoup de chance au fur et à mesure de mon parcours. D'abord, j'ai été accompagnée, et ça, je voudrais quand même le souligner, par des patrons hommes.
Ouais.
Particulièrement, je vais faire un anglicisme atroce, supportif,
qui ont soutenu
vraiment... ma façon de travailler, qui était quand même assez indépendante, je pense qu'assez vite, ça leur est bien apparu qu'il fallait pas quand même trop peser sur mes épaules.
S'immiscer dans
sinon je risquais de ruer un peu dans les brancards. Mais moyennant quoi, avec ma carte blanche, à peu près,
ils t'ont fait confiance.
J'avais envie de développer plein de choses. J'étais débordée d'activité et d'envie. Et donc, j'ai quand même, grâce à eux, progressé énormément. Et donc là,
et c'est bien de souligner qu'il y a des hommes qui soutiennent aussi, des parcours féminins.
Exactement. Non, j'ai pas du tout été.
Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce domaine de la santé féminine?
Et donc, bon, par le fait du hasard, je me suis retrouvée à la tête de Pelvifarm. Et Pelvifarm, au départ, se centrait pas du tout sur la santé féminine. Et moi, je trouvais que ça, c'était bien dommage. Parce qu'il y a rien qui est fait, en fait, pour les femmes. Il y a vraiment très peu.
Alors, c'est ça. Alors, je voudrais juste rappeler, tu as peut-être des chiffres plus précis que les nôtres, bien sûr, très probablement. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est que si on parle juste de l'endométriose, qui est un terme, alors le terme on l'entend depuis très longtemps, on sait qu'on est à une femme, ça touche une femme sur 10 en âge de procréer, donc c'est 2 millions de femmes en France, et le délai moyen de diagnostic est estimé entre 7 à 10 ans. Il reste estimé entre 7 à 10 ans.
Exactement. Et jusqu'à il y a relativement peu de temps, les industriels ne s'intéressaient absolument pas à ce domaine. Ce qui est quand même hallucinant, parce que même si on veut être très cynique, un industriel du médicament est là pour faire son beurre, avec une population cible telle...
Normalement, il y a un marché.
Allez-y, les gars. Qu'est-ce qu'on attend, en fait?
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend aussi des outils pour pouvoir étudier ces pathologies-là. D'accord. Et c'est vrai que ces outils, on les a pas forcément.
Penses que c'est pour ça? Pourquoi les sujets féminins sont si peu adressés? Alors que pourtant
peut-être parce que les femmes n'ont pas suffisamment mis en avant aussi. Il faut également qu'on en parle.
Oser en parler, briser le tabou, les règles douloureuses, bien sûr.
Et ce genre de concept, ça fait relativement peu de temps qu'on en parle. Alors certes, c'est devenu cause nationale il y a quelques années.
Oui, c'est ça.
Mais
c'est pas si vieux.
C'est quoi, 3-4 ans,
c'est clair.
C'est quand même c'est pas très ancien.
C'est vrai.
Et l'endométriose, ça date bien avant. Hein.
Mmh. Donc, bah moi-même, j'ai été diagnostiquée il y a à peine un an d'une endométriose et j'ai eu des énormes douleurs pendant 15 à 20 ans.
Oui, voilà. On est sur des errances médicales.
Des errances. Cette errance de diagnostic, elle est terrible. Et c'est un poids pour les femmes qui en souffrent absolument énorme.
Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de médicaments, il faut le rappeler, pour soigner l'endométriose.
Ben non.
Voilà.
La seule chose qui est disponible aujourd'hui, ce sont des médicaments, on va dire, castrateurs chimiques pour mettre à l'arrêt finalement les cycles hormonaux. Pardon, mais généralement, ça touche des femmes jeunes qui sont en âge de procréer, mais donc c'est complètement incompatible.
Pas adapté du tout. Donc en fait, là, vous êtes, tu as décidé d'orienter un petit peu, donc sur tous les sujets liés à la ménopause, donc à l'endométriose, on est en train de le dire, au syndrome ovarien polykystique. C'est ça?
Absolument.
Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, pour que ça change? Tu disais donc, déjà que nous, les femmes, on en parle, qu'on brise les tabous, c'est ça?
Et je pense que grâce à ça, d'ailleurs, ces messages commencent à passer beaucoup plus.
Mmh. Tout à fait.
Et c'est pour ça aussi que les industriels, on commence à avoir beaucoup plus d'intérêt de la part des industriels et s'en emparent. Et c'est... Parce que, et en fait, les industriels sont très grégaires, hein. Donc, à partir du moment où il y en a un gros qui y va, il y en a deux, il y en a cinq, il y en a 25. Voilà. Et donc, là, on assiste depuis très peu d'années, mais on assiste à une vraie prise de conscience de la nécessité de prendre en charge ces pathologies purement féminine. Tout comme d'ailleurs, on a également aujourd'hui une prise de conscience sur le fait que les médicaments n'agissent pas exactement de la même manière selon que l'on traite des hommes ou des femmes.
Alors ça, on a constaté qu'il y a plus d'effets secondaires d'ailleurs chez les femmes.
Exactement.
Hein, et que ça fait l'objet de retraits de médicaments.
Et donc les études cliniques aujourd'hui, qui sont pratiquées exclusivement, elles sont pas toutes comme ça, mais pour celles qui sont pratiquées exclusivement chez les hommes, mais c'est une hérésie. Il faut également regarder ce qui se passe chez les femmes. Oui. Et ça commence à arriver de plus en plus, et tant mieux.
Bon.
Et
j'ai juste une dernière question sur le sujet, parce que comme le disait Myriam, tu as ouvert la voie à des études sur la ménopause, sur l'endométriose, les kystes ovariens, etc. Alors, c'est vrai, comme tu le disais, l'endométriose est aujourd'hui une cause nationale, mais qu'est-ce qu'il en est des autres? Que toi tu supportes, parce que tu parlais que vous manquiez d'outils, mais est-ce que c'est des outils financiers, est-ce que vous avez besoin de subventions du gouvernement, est-ce que c'est des outils privés, comment est-ce qu'on peut faire pour que tous les sujets de la santé féminine soient mis au même plan?
Alors bon, moi je vais regarder par la petite lunette qui nous concerne, hein. C'est effectivement un soutien financier pour pouvoir développer ces outils de mise en évidence d'efficacité de potentiels futurs médicaments. Ça existe vraiment très très peu.
Donc c'est de la recherche, quoi.
Et c'est de la recherche.
Tu parles de recherche.
De la recherche de l'histoire naturelle. On sait toujours pas exactement pourquoi l'endométriose se déclare chez certaines femmes et pas chez d'autres. Ça c'est toujours pas très très
on
clair.
On connaît pas bien les causes.
Bien sûr. Donc, à la fois la recherche fondamentale et la recherche appliquée ont clairement besoin de fonds pour pouvoir avancer.
Vous avez des investisseurs privés qui veulent quand même investir ou c'est très rare?
Il y a certains industriels, des gros acteurs qui acceptent effectivement de contribuer, on va dire, à la recherche avec un grand air si c'est possible avant d'aller tester leurs propres médicaments.
Ouais. En tout cas, donc en effet, hormis les aspects purement financiers, qui sont également le nerf de la guerre, ce que tu préconises aussi, toi Delphine, c'est vraiment, nous en tant que femmes, osons parler de ces problématiques-là et
et il n'est pas du tout impossible de penser que si Pelvipharm a pris cette orientation-là, c'est aussi parce que j'en suis à la tête.
Ça, il faut la voix des femmes.
Oui, mais c'est important.
La voix des femmes est importante. Hein,
c'est pour
vrai,
ça que c'est important.
Alors, ça ne veut pas dire qu'un homme n'aurait pas eu cette idée-là aussi, mais c'est certain
que... Mais il aurait été moins sensible, c'est normal.
J'ai probablement été plus sensibilisée à ces choses-là. Ouais,
merci beaucoup, en tout cas, Delphine, pour ce témoignage encore fort et inspirant. En tout cas, c'est le moment de faire une seconde pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite.
I'll smile, I know what it takes to fool this down. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving. My arms around so you are somewhere. I'm moving.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, Delphine, chercheuse et présidente de Pelvipharm, société de prestations de recherche pour l'industrie pharmaceutique, est notre femme en lumière du jour. Alors Delphine, je le disais en introduction, tu es également maman de deux enfants, dont un qui vous a réservé pas mal de surprises. On pourrait le dire comme ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
Alors d'abord, je veux souligner aussi que, justement, mon job m'a toujours permis d'avoir une certaine liberté. Liberté dont j'avais besoin, effectivement, parce que d'abord, mon rôle de maman me tenait fortement à cœur. Et donc, je voulais faire du mieux possible, même si c'est toujours... critiquable, mais
oui, on est toutes pareilles. Hein.
On était toutes.
Quel âge ils ont aujourd'hui?
Et aujourd'hui, je suis maman donc de deux enfants, un de presque 25 ans et un de 20 ans. Et l'aîné a effectivement eu un démarrage dès le départ dans la vie un peu plus compliqué parce que différent. D'accord. Différent pour des tas de raisons, mais en particulier au potentiel, donc avec un décalage notoire avec ses camarades. Oui. Également avec un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et non, ce n'est pas un problème d'éducation, c'est un vrai problème de neurodéveloppemental. Le TDAH est un vrai handicap, hein, qui est d'ailleurs reconnu par la MDPH, hein, Maison des personnes handicapées. Ces différences sont apparues évidemment très tôt. On fait que tous les ans, je me retrouvais convoquée par l'école, par le collège, par le lycée, pour me dire, mais quand même, il y a un truc là. oui, je vous confirme. Des vraies difficultés de vie pour cet enfant qui s'est toujours senti différent. qu'on a essayé d'accompagner du mieux possible.
Donc, qui a pu faire une scolarité quand même, oui. Aller jusqu'au bout de sa scolarité.
Oui,
quand
parce
même,
que
malgré
son
tout.
Potentiel lui, oui, a permis de compenser énormément. Mais après, il fallait énormément l'accompagner et être derrière parce que il y avait ni les cours notés, ni les devoirs, ni machin. Et puis là, c'était à l'époque où il y avait pas Pronote, pas les groupes WhatsApp où on prend en photo les cours et hop, c'est réglé.
C'est toi qui accompagnais, c'est toi qui aidais ton enfant.
Donc je courais après les cours, j'allais faire des photocopies, je ramenais, enfin bref, c'était. C'était un peu lourd, hein, il faut quand même bien l'avouer, assez prenant, et c'est là où j'avais vraiment besoin de temps pour pouvoir conjuguer à la fois ma vie pro et ma vie perso. Et il n'était pas question que je fasse une croix sur cette partie perso. Bon, in fine, ça se termine super bien parce que cet aîné en question aujourd'hui a terminé son école d'ingénieur, très bonne école, avec d'un point de vue académique un parcours tout à fait satisfaisant. Après, ça reste un enfant ou un jeune adulte aujourd'hui qui est pas très bien dans sa peau, qui a des difficultés sociales notoires, qui a du mal finalement à s'insérer quand même dans la société, et qu'il faut continuer à accompagner quand même parce que
quand tu dis le mot accompagner, est-ce que tu as eu des accompagnants, des gens qui t'ont aidé
Alors c'est ça qui est terrible en fait, la prise en charge de ces différences est vraiment insuffisante en France. C'est en tous les cas mon point de vue parce que on s'est tourné vers... alors déjà, en termes de diagnostic, on parlait du diagnostic de l'endométriose, mais alors le diagnostic du TDAH, c'est bien pire. Hein. Ouais. Enfin, pire, je sais pas s'il faut mettre d'ailleurs une échelle de valeur, mais c'est du même acabit. Parce qu'on a erré un temps fou, on a fréquenté tonnes de psychiatres, psychologues, psychométriciens, sophrologues, graphothérapeutes, bref, j'en passe. Jusqu'à ce qu'on nous dise, ah bah peut-être. C'était une piste, mais enfin, c'était pas non plus une solution, parce que finalement, le mal-être subsiste et continue à s'exprimer. Et donc, c'est là où l'accompagnement est nécessaire.
Donc en tout cas, cet accompagnement, il n'a pas été suffisant, comme tu le dis, un diagnostic assez tard. Et qu'est-ce qui t'a permis de tenir et de tenir cette vie professionnelle? Parce que comme tu le dis, t'as gravi les échelons, t'as pris ton poste de c'est quoi, directrice, présidente de.
D'abord, j'étais directrice scientifique, puis effectivement présidente.
Et comment tu as su conjuguer cette vie de maman et cette vie de responsable tous les jours? Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir et à faire que tu as pu jongler entre ces deux priorités?
Je pense que j'ai toujours eu la capacité à compartimentaliser suffisamment pour que existent ces deux vies parallèlement. On peut parfaitement, j'en suis convaincue, réussir professionnellement tout en ayant suffisamment de temps à se consacrer pour... ce qui paraît important. Alors moi, c'était ma vie de famille, mais après...
Oui, sauf que là, il y a quand même un contexte particulier, parce que comme tu le disais, il faut aller faire les photocopies des cours, parce que...
Ouais, c'est pas simple quand même.
Parce que l'enfant n'est pas en mesure de vraiment tout noter. C'est quand même...
T'avais une assistante, t'avais ton mari qui t'a aidé, où t'as tout géré, t'as tout porté de main. Moi, je me dis, c'est une superwoman, quoi, parce qu'on sait les difficultés.
Alors, j'ai pas mal porté, mais bien sûr que mon mari était là. Naturellement, mais il était également concerné d'ailleurs.
Bien sûr.
Et puis j'ai eu ces patrons qui me laissaient m'organiser comme je l'entendais.
Oui, il y a ça aussi en fait. Hein. Et c'est important aussi de le rappeler. Ouais. C'est que dans la sphère professionnelle, pouvoir travailler avec des gens qui prennent aussi en compte un minimum
ce
que vivent les collaborateurs.
Ils étaient au courant.
Ça c'est hyper important.
Et voilà, ils étaient parfaitement conscients du moment où j'avais besoin de temps et ils me le laissaient.
Et puis probablement que toi aussi, dans ta façon de gérer les choses, de les appréhender, tu avais dit leur montrer que c'était une priorité pour toi, quoi.
C'était une priorité, mais en même temps, je ne négligeais pas pour autant le reste.
Exactement.
Exactement. Seulement, il fallait me laisser la possibilité de m'organiser pour que les deux puissent exister.
Ouais, c'est ça.
Ça a duré combien de temps?
Oh bah ça dure encore.
Ça dure encore. Et alors, est-ce qu'on arrive en tant que femme Alors à gérer, donc tu gères tout d'une main de maître, et à garder du temps pour soi en tant que femme. Est-ce que tu arrives encore ?
Alors aujourd'hui, oui, beaucoup plus, mais aussi ils sont plus grands. Je pense qu'il y a eu un moment quand même, j'ai forcément été un petit peu entre parenthèses parce que là, pour le coup, ça manquait un petit peu d'heures dans la journée.
Hein. Ouais, bah oui, oui, quand ils sont plus jeunes, c'est sûr que c'est plus compliqué. Ouais.
Mais bon, là, après, je pense que également toute femme qui conjugue à la fois une vie professionnelle et perso rencontre cette situation-là.
Hein. Ouais, ouais,
donc
bien sûr.
Là, je pense qu'il n'y a pas de...
Alors, donc raconte-nous un petit peu tout ce que tu fais en dehors. Hein, parce qu'alors donc, alors on
a multi-passion,
donc on parle de temps pour soi. Donc maintenant que voilà les choses rentrent un peu dans l'ordre, donc on a... Donc t'as fait 12 ans de piano.
Alors aujourd'hui, ouais, j'ai une vie surchargée.
Il y a quand même la musique. Ah bah voilà. T'es passionnée de musique.
Mais j'adore. Le temps passe très très vite.
Le sport. Alors,
je fais. Oui, je fais du sport parce que c'est absolument indispensable. Je joue notamment au tennis. Ça fait un nombre d'années certains que je joue au tennis et j'y tiens.
Ok. Super.
Très régulièrement. J'ai fait beaucoup de musique jeune grâce à mes parents qui m'ont mis au piano. Et pour mon père, c'était extrêmement important. Il est lui-même très très bon musicien. Mais le piano, enfin, j'aimais bien ça, mais je trouvais ça très solitaire, en fait, comme activité. Ça ne me convenait pas totalement.
D'accord.
Et j'ai...
12 ans, quand même.
Ouais, 12 ans, mais j'avais peut-être pas mon mot à dire.
Et alors, du coup?
Je me suis mis au chant, grâce à mon mari, d'ailleurs. On a fait de la chorale et on fait toujours de la chorale. Très régulièrement. Et donc ça, bah, toutes les semaines, hein, on fait partie du chœur de chambre de Versailles que je salue et et on monte voilà entre 2 et 3 spectacles par an, donc
rien que ça.
Tu vois, quand je parlais de temps pour soi, c'est chouette. Bah, du coup, t'arrives à jongler toutes ces vies.
Et puis à côté de ça, il y a
un an et demi. C'est pas fini.
Mon mari m'a offert à Noël un saxophone.
Ok.
Parce qu'en fait, il avait dû se rappeler. Pourtant, je lui en parle pas tous les jours, mais que je m'étais initiée à ça très jeune et que j'avais adoré. Et en fait, depuis un an et demi, je fais partie également d'une bandasse qui s'appelle Micmac Band de Versailles, qui fait donc de la musique de rue, qui anime un certain nombre d'événements dans Versailles, au cours du mois Molière, la
en
course du Paris Versailles,
en fait,
exactement.
Ça trop bien.
Qui joue pour la fête de la musique bien sûr. Enfin bref, qui anime un certain nombre d'événements au cours de l'année, et donc au sein de cet orchestre, je joue du saxophone alto.
Ah, trop bien.
Et j'adore.
Eh ben, on va en écouter une de saxophoniste, justement, une saxophoniste femme.
Allez, c'est parti. Merci beaucoup et on se retrouve à tout de suite.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière. Et avec nous, Delphine, qui est chercheuse et présidente de Pelvifarm et qui va se prêter dans quelques instants à l'interview Spotlight. Delphine, es-tu prête?
J'espère.
Allez, c'est parti.
T'as pas le choix de toute façon.
Alors, imaginons, aujourd'hui, tu aurais un sujet de recherche à développer. Mais ce sujet de recherche serait une série Netflix. Ce serait plutôt un thriller scientifique ou une comédie romantique de laboratoire.
Je suis indécrottable romantique.
Ah, j'adore, je valide.
Donc Grey's Anatomy avec comment il s'appelle,
le docteur Mamour.
Mais oui.
Ouais, c'est ça.
Et puis les Bridgerton.
Ah,
et puis,
d'accord. Ah, donc t'es plutôt dans cette team là, toi.
Ah, mais c'est terrifiant. Ah,
c'est terrifiant. Terrifiant.
Ah ouais, mais je suis l'objet de moqueries régulières à la maison. Vrai. Alors là,
bon, ça fait du bien.
Et alors non, les films de Noël, on en parle deux minutes.
Bah oui, mais c'est clair. C'est clair, moi je suis à fond, un film de Noël, livre de Noël.
Ben moi ça commence dès le mois d'octobre.
Hein. Ah
c'est
oui,
pas vrai. J'adore ça.
C'est trop marrant. Alors, autre question, attention, c'est parti. Si tu devais choisir entre labo, piano et saxo, ce serait quoi?
Oh, c'est trop dur ça.
Ouais, elle est super dure ça.
Oh, j'ai pas du tout obligée de choisir, pourquoi?
Alors, ok, choisissons deux parmi les trois.
C'est le jeu des questions.
Bah, labo saxo.
Ouais, labo saxo.
Ça, j'ai fait. Labo
choix, déjà. Okay.
C'est vrai.
Labo saxo, ouais. Ça marche. Allez, si tu pouvais injecter une molécule miracle dans le système de santé français, ce serait quoi?
L'envie. L'envie d'avoir envie, comme disait quelqu'un.
Ouais. Dédicace à l'envie
ou la volonté?
Ou la volonté.
Ouais.
Y a rien de tel qui m'énerve, par exemple, que les gens qui vous disent bon courage. Mais pourquoi? Pourquoi bon courage?
Ouais.
Enfin, non, bonjour, bonne chance peut-être, mais bon courage. Okay,
mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? C'est un peu ce qu'on te dit quand tu dis je suis chercheuse.
Non.
C'est quoi le bon courage?
Mais le bon courage, je vous ferai attention. Les gens disent ça spontanément, sans arrêt.
Tu veux dire dans la vie tous les jours?
Ah oui,
bon courage. Bah,
ouais, non, mais c'est vrai.
Mais pourquoi bon courage? J'ai pas besoin de courage quand même pour vivre ma vie, enfin.
Ouais.
Voilà.
D'accord.
Donc la question, c'était la volonté.
Mais pour le système de santé français.
Ouais, bon, ça c'était pas spécifique.
Mais moi, si jamais ils ont l'envie, en fait, tu développes tout avec de l'envie.
Ouais.
Et de la volonté. Moi, j'ai compris la petite baguette magique là. La molécule miracle, non?
Ouais. Ouais, ouais, non, mais d'accord. Oui, non, mais je comprends.
Moi, j'ai compris.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a, si on s'adresse d'un point de vue, voilà, politique générale, faire en sorte que, voilà, les mesures qui soient prises, provoque du bonheur, de la joie et le fait que les gens se sentent bien, c'est ça que tu veux dire?
Ouais.
D'une façon plus générale, très bien. Alors, quatrième question Spotlight sur cinq. La découverte scientifique que tu aurais adoré signer, même en tout petit microscopique en bas de page, ça serait quoi?
Ah, c'est trop dur ça.
Ouais, c'est dur.
La vaccination, la pénicilline, c'était vraiment des révolutions médicales.
Et à venir?
Ah bah, y a un bon champ d'investigation encore.
Tu m'étonnes.
Hein.
C'est clair.
Il y a de quoi faire. Bien. Alors, entre la pipette, le microscope et la machine à café, selon toi, c'est qui la vraie star au labo?
Moi, rien de tout ça, en fait.
C'est qui n'est pas donné? Ce serait quoi?
C'est qui la star, alors?
C'est moi, non?
Non, sûrement pas. Ça, non, vraiment pas. Alors peut-être la machine à café, bien que en fait c'est pas comme ça que ça se passe chez nous, mais le fait de pouvoir discuter, le fait de pouvoir échanger, c'est là la grande force en fait des gens qui travaillent ensemble.
Alors d'accord, oui c'est vrai, machine, mais clairement. Alors ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué. Donc vous êtes 15 personnes,
ouais.
Hein, tu diriges une équipe de 15 personnes. Vous êtes combien d'hommes, combien de femmes? Ça se répartit comment?
Ah, on est principalement féminin.
Ah, tu vois, c'est intéressant.
C'est pas
aussi
forcément un choix de ma part, hein, parce que encore une fois, c'est pour ça que j'ai eu une hésitation à vous répondre sur cette répartition.
Oui, sur la répartition. Bon,
parce qu'en pratique, Moi, j'ai plus de candidates que de candidats.
Hein. Oui. Mais quand tu es rentrée, il y avait plus d'hommes. Est-ce que tu penses non. que c'est parce ah, non, c'était
non,
pareil
non. non, non, ouais, ouais.
Ah, ok.
Ouais.
Okay. Oui, c'est vraiment le secteur, le domaine de
je
recherche,
pense, oui, c'est pour ça.
En effet, mmh, où on va trouver.
Non, je m'astreins entre guillemets. Enfin, j'essaye vraiment de recruter des hommes, en fait, parce que je trouve que la complémentarité est unique.
Ouais. Bien sûr.
Elle est très bien importante.
Sûr. Bien sûr.
On n'a pas du tout la même façon de travailler. On n'a pas la même façon de voir les choses, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Et donc c'est vraiment intéressant la complémentarité entre ouais. hommes-femmes dans la recherche.
Donc la star, la machine à café, parce que c'est justement autour de ces échanges informels, de ces moments de discussion qu'on peut aussi, ben voilà, faire avancer les choses,
ouais.
Communiquer, en vérité, mieux se connaître.
C'est la richesse humaine, en fait.
Hein. Et voilà, c'est ça. Bon, on sait aussi que c'est quelque chose, cette dimension-là humaine, c'est aussi ce qui te tient particulièrement à cœur dans ta façon de manager, dans ta façon de transmettre.
Ouais. Bien sûr, bien sûr.
Bah merci beaucoup en tout cas Delphine d'avoir joué le jeu des confidences. Notre émission touche à sa fin, mais avant de la clôturer,
et
oui, ça
tu vois, c'est passé tout le temps finalement.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette femme lumineuse que tu es pour 2026?
Pourquoi s'arrêter à 2026?
Alors j'ai envie de dire, je l'ai rajouté, je sais pas, 2026, 2027, jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, dis-nous tout.
Ah, de continuer à rencontrer des gens formidables, à vivre des expériences nouvelles et à nourrir la curiosité qui m'anime.
C'est toujours et toujours, encore et toujours, cette curiosité insatiable et ce goût pour le défi et les challenges.
Ouais.
Eh bien, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite,
exactement.
Delphine. Merci infiniment pour ce partage plein d'optimisme et d'humanité. On te souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, mardi prochain, de 18h à 19h, en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore un immense merci Delphine.
Merci beaucoup à vous.
Et à bientôt, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Merci de votre bienveillance.